Je suis Cédric Téton, CTO de PackMind, et dans Tech Lead Corner, je reçois des Tech Leads, Engineering Manager, CTO, bref, des passionnés de la tech, pour parler de leur parcours et surtout de leur mission.
Et pour moi, c'est vraiment la livraison même du code. C'est à quel point c'est facile de livrer du code et tout son cycle de vie, quoi. Donc ça, c'est un parti pris assez fort, hein, là, de discuter de ça comme un axe, une compétence quelque part du Tech Lead. De maîtriser ça, parce que si l'équipe ne maîtrise pas, il doit leur enseigner. Si on se retrouve avec trop de choses démarrées en parallèle, trop de PR en parallèle, trop de chantiers, pas assez de tests, des incidents qui reviennent plus tard, tout ça prend sa racine dans comment je valide du code, que le code est bon. Donc le vraiment, c'est le gatekeeper du commit. Responsabilité maximum, le tech lead, c'est quel code part sur la branche de code, quoi.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Bailly. Salut Dimitri.
Bonjour Cédric.
Comment tu vas aujourd'hui?
Très bien, très bien.
Super. Je suis ravi de t'accueillir pour ce second podcast de Tech Lead Corner. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour te présenter rapidement Tech Lead Corner et à notre audience aussi qui découvre peut-être ce podcast, l'idée c'est simple. En 45 minutes, on va aborder trois rubriques principales. Bien sûr, une petite intro au début. Par la suite, je te laisserai, Dimitri, parler d'un projet marquant pour toi, une expérience récente dans ton poste actuel ou par le passé. Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu en as tiré? Quels étaient les challenges techniques, humains, organisationnels derrière? Deuxième partie, on passera ensuite sur qu'est-ce que c'est être, selon toi, un ou une tech lead? Quelles sont les qualités, selon toi? C'est quoi les missions principales? La posture à avoir? Et enfin, il y aura une dernière rubrique dédiée à la GenAI, comment l'IA peut nous aider aujourd'hui en tant qu'équipe de développement logiciel, et c'est quoi ta vision de l'impact sur les mois qui viennent. Je serais très curieux d'avoir ton feedback sur ça. Et puis, je te laisserai partager 2-3 recommandations en fin de podcast pour nos auditeurs et auditrices.
Parfait.
Ça te va, c'est parti?
Très bien, très bien.
Alors, est-ce que je peux te laisser, Dimitri, te présenter en 2 minutes pour notre audience?
Bonjour à tous, Dimitri Bailly, je suis membre de l'équipe tech de Backmarket, un poste assez large de contribution à l'organisation de Backmarket, de l'équipe tech de Backmarket. On a 250 développeurs, 40 équipes et je suis contributeur individuel pour aider le CTO et les directeurs, la CTO et les directeurs pour mettre en place certaines parties de l'organisation. Et au sein de cette organisation, j'ai pris une mission de mettre en place une nouvelle structure à l'intérieur de Backmarket qui s'appelle Backmarket Pro, où on a une petite seed, une startup interne qui lance Backmarket pour les entreprises. On a un bon challenge pour étudier et grossir à la vitesse de Backmarket les années futures. Et à côté de ça, j'ai deux activités principales qui sont TechRocks, une conférence et un réseau de CTO, de tech leader que tous les auditeurs du podcast se doivent de connaître. Et on a pas mal de meet-up, de conférences, de podcasts. Je m'intéresse particulièrement à la qualité du programme. Essayer d'avoir de bons speakers, de bons intervenants tout au long de l'année. Et Flocon, un petit bébé depuis une quinzaine d'années, dizaine d'années, on va dire, toutes les organisations des équipes en l'autonomie des squads et tous les participants pour livrer en continu. Donc c'est issu d'une conférence Kanban à l'époque, donc creuser le continuous delivery au sein des équipes et toutes les parties prenantes. Donc une conférence qui mixe du produit, de l'agilité, de la tech. Et c'est le 6 et 7 mars, il reste des places. Donc j'espère que le podcast sera publié avant.
Normalement, donc voilà, n'hésitez pas, j'ai eu l'occasion d'y aller l'année dernière en 2023, c'était hyper enrichissant, donc je recommande.
C'est un peu rencontré là-bas.
Également, pour l'anecdote. Bah, merci beaucoup Dimitri pour l'intro. Je te propose qu'on passe à la première grosse rubrique de ce podcast, le fait marquant, un projet pour toi qui a été significatif parce qu'il y a eu des défis, soit techniques, soit humains, soit organisationnels, des décisions à prendre, un timing serré. Voilà, quelque chose que tu as envie de partager à notre audience. Donc je t'invite déjà à commencer par nous en dire un peu plus sur le contexte avant de rentrer un petit peu plus sur le déroulé de ce projet.
Bon, sans surprise, c'est le challenge de Backmarket for Business. Donc, monter cette startup interne. Donc, ça ne se voit peut-être pas à l'oreille, mais je suis pas tout jeune. Et de partir dans une startup sans être tout jeune, ça ouvre beaucoup de challenges. Donc, on est une startup à l'intérieur d'une grosse structure. Donc, on a quand même tout un accompagnement de l'organisation. mais comment lancer une expérimentation, un MVP ou une ou un projet assez large au sein d'une organisation qui n'a pas pour objectif premier de lancer ce sujet-là. On n'est pas le sujet prioritaire de Back Market, mais on est une graine à planter. Donc, c'est un peu les conceptions d'innovation, de MVP, de construction de nouveaux projets. La question là-dessus, c'est comment on monte techniquement ce projet-là. Comment moi, en tant que contributeur individuel tech, seul tech au départ, reprendre un projet qui était déjà lancé avec une structure qui était sur Shopify, pilotée par une agence. Comment apporter de la seniorité, de l'architecture et de la projection sur l'avenir et de construire pas à pas une équipe autour de ça. Ça, c'est le challenge.
Sur un timing défini ou pas, vous avez un peu carte blanche, une deadline ou c'était plutôt libre ?
Le timing, c'est nous qui le définissons quelque part, mais c'est un petit peu comme si on faisait des levées de fonds successives où on voit comment ça avance. Il ne faut pas que ça aille trop lentement ni... Et bon, trop vite, c'est une autre question, mais donc on a quand même, on s'assoit sur toute la structure et la ressource back market en essayant d'éviter de peser dessus parce qu'ils n'ont pas de temps à nous accorder. Et comment on développe un business à partir de là.
Ok, alors ensuite, comment ça se passe?
Donc, à partir de là, la question, on a très peu de développeurs, on veut faire très peu de développement. Le but du jeu, c'est de valider une hypothèse business. Est-ce que des entreprises sont prêtes à acheter du matériel reconditionné? Donc, je ne vais pas trop rentrer dans toute la question du business et des questions business, mais c'est la posture du tech lead de s'adapter à ne pas engager trop de développement avant que le business soit validé, sans être un ralentisseur non plus des expérimentations. Je suis arrivé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et c'est normal, étaient faites à la main. Donc le Shopify, les produits, donc beaucoup de données étaient faites à la main et se sont posées des questions de un peu comment industrialiser, c'est un grand mot, mais de comment automatiser, on va dire, les parties utiles pour dynamiser le business. Et c'est vraiment là, je pense, un bon exemple de trouver l'équilibre entre ce qu'on appelle build et buy. Qu'est-ce qu'on fait sur, qu'est-ce qu'on prend sur étagère et qu'est-ce qu'on décide de construire soi-même? Et à partir de ce point-là, le choix Shopify, il était bon. On a du Stripe et de l'Algolia pour vraiment faire tourner un site internet. Et pas que, parce que le but du jeu, c'est d'avoir des deals avec des entreprises qui passent hors site, des commandes plus privées, des appels, des mini-appels d'offres où des entreprises demandent un certain nombre de matériel et on va les trouver pour eux. Quoi. Donc, c'est pas le site, on n'est pas en train de refaire un site e-commerce non plus, on fait une machine qui va nous supporter pour construire différents cas de vente. Et de s'attaquer à de l'automatisation un peu plus large.
D'accord. Juste une petite question, je reviens sur ce que tu disais, trouver l'équilibre entre le build et le buy. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette démarche? C'est quoi? Tu cartographies tout ce qu'il y a à faire et tu coches des cases?
Parce que la cartographie, elle est rapide. Il y a un mini back-office, il y a Shopify. C'est s'appuyer sur les forces de Shopify plutôt que de savoir ce que nous, on veut faire. On part sur un existant. Et c'est vraiment de la résolution de problèmes au quotidien et de l'analyse des causes de ce qu'on voudrait éviter qu'ils reviennent en permanence. Donc, la qualité des données et la duplication à la main de données, c'était un petit peu le vecteur premier. C'est comment faire, tirer un fil pour dire « je veux éviter » de la manipulation manuelle par des personnes des données du produit. On a la chance d'avoir un catalogue produit assez riche sur Back Market. Donc, c'est comment trouver un point d'entrée, quel qu'il soit, pour avoir une source de données fiable. Donc, ça, on a trouvé ça dans le nom de l'Algolia de Back Market. Donc, on s'est créé une API, un accès API aux données synthétiques de Back Market grand public et on s'est rebranché dessus pour alimenter notre propre catalogue. Premier axe, garantir une qualité de données qui ne repose pas sur des actions manuelles. La deuxième partie, c'était l'alimentation des stocks. Donc, vendeur par vendeur, on est une place de marché. Shopify n'a pas encore une structure qu'on connaît bien de place de marché. Donc, on a adapté un petit peu le site nous-mêmes pour pouvoir alimenter le produit de différents vendeurs. Donc, un par un. Pareil, source de données, unicité de la donnée, éviter de recopier, de modifier les données dans le flux. Donc, c'est principalement du se poser sur le flux de données ou le flux de valeur, si on veut, quelque sorte, et d'éviter les problèmes récurrents sur cette chaîne-là. Et c'est vraiment la différence entre un MVP où on n'investit pas trop dans la tech et un MVP où on investit un peu plus chirurgicalement sur certains points tech clés que personne ne voit, mais que moi j'ai pu identifier en observant les gens travailler. Quoi. C'est vraiment un peu la poule et l'œuf de dire faites avec ce que vous avez, j'observe et je propose des améliorations un peu plus chirurgicales de là où ça me paraît nécessaire d'avancer. Donc on n'est pas dans des cas classiques d'entreprise avec du produit qui fait des specs, qui dit c'est ce qu'il veut et compagnie. On cherche tous en même temps à partir d'un existant. On avait reconditionné un site internet interne de Backmarket qui était fait pour complètement autre chose. Donc on était vraiment sur de l'adaptation continue. Là-dessus, le guide, c'est la cible. Se dire on assemble une plateforme dont le but ce sera de migrer vers Backmarket plus tard, donc de rester compatible avec le futur. Donc c'est d'essayer d'avoir une concordance de nom, de structure, d'identification des données qui reste compatible avec Backmarket. Ça c'est voilà, on est en parallèle.
Donc t'es pas dans la stratégie MVP où tu dis on fait un truc en se disant on va le jeter et si jamais ça marche on le refera proprement pour que ce soit compatible. Il y avait quand même cet objectif de deuxième étape que vous aviez en tête.
Alors c'est un MVP compatible. Donc, guider, même terminologie, d'essayer de se brancher sur les mêmes concepts, d'essayer de bénéficier des concepts. Mais on a, par exemple, réimplémenté des API de Backmarket qui étaient fournis à des sellers, à des vendeurs, pour qu'eux gèrent les commandes, mais exactement les mêmes que Backmarket, mais implémentés au-dessus de Shopify. Donc ça, c'est un MVP qu'on jette, mais dont les concepts restent. Donc en fait, peut-être le code est jetable, mais pas les concepts, pas la structure, pas l'approche, pas le modèle de fonctionnement. Donc c'est vraiment de s'attacher à ça. Il n'y a rien n'est jetable en fait. On peut se dire qu'il y a toujours des bouts qui vont rester. Donc on est là-dessus. Ouais.
Ok. Donc tu investis sur de la tech et tu t'assures que cette tech, tu penses cette tech comme quelque chose qui va rester.
En fait, c'est temporaire. Alors c'est même pas une question de dette, c'est une structure temporaire, c'est intermédiaire, c'est un pont intermédiaire. Donc on fait une première version qui fonctionne, qui doit montrer le business et qui s'adapte à l'existant. Donc c'est vraiment basé sur l'activité existante avec un modèle cible en tête. Compatible avec Backmarket, mais on essaye de faire le développement minimum sans avoir ça en tête au départ. On s'adapte, c'est de l'adaptation permanente. Voilà, développement, il y a un choix assez fort qui a été fait, c'est de faire une grosse partie du prototypage sur Google Apps Script et Spreadsheet. Donc c'est vraiment d'avoir tout notre inventaire, tout notre catalogue accessible par les personnes de l'équipe pour qu'elles puissent voir le contenu et moi maintenir l'alimentation du Shopify par API avec un minimum d'automatisation. Donc là on est vraiment dans c'est pas du low code parce que c'est du vrai code avec du Google Apps Script, mais un peu magique, c'est un peu au-delà des cloud functions où on a toute la puissance de Google Spreadsheet, des formules d'adaptation et de pouvoir surtout voir. Donc c'est une sorte de back office permanent pour les employés de Backmarket pour voir les produits qui sont en ligne directement et moi manipulé par derrière avec le moins de code possible. Et là pour le coup c'est le plus jetable possible, c'est le temps de savoir ce qu'on veut faire de manière un peu plus structurée. Et depuis ça a été réécrit en Python, en back office plus propre, mais toute la phase d'investigation était faite comme ça en base de spreadsheet et de Google Apps Script.
L'App Script du coup qui va fetcher de la data quelque part dans vos API et qui la restitue après dans un spreadsheet qui constitue
Ouais, et qui la réinjecte. Donc c'est vraiment ça aurait pu être du Airflow ou une autre automatisation, mais là c'était donner de la visibilité à l'équipe, s'adapter assez rapidement, mais les concepts pour moi qui étaient importants c'est du monitoring, de l'alerting et de la visibilité sur l'activité du système. Donc c'est pas mal de messages sur Slack, construire toute une structure autour de Slack, d'alerting et de synthèse de l'activité de ce système-là, parce qu'il bougeait assez vite. Donc c'est un système vivant, simple, et tout la problématique, c'est d'avoir un seul lieu où on code. Quand on est une petite startup, quelque part, c'est de dire on assemble la plupart des endroits et on cible un ou deux lieux où on écrit notre propre code, quoi. Il y a tout réécrire un système complet de A à Z semble inatteignable, sauf par des rockstars du développement qui veulent réinventer. Mais là, c'était vraiment plutôt cibler les endroits où on veut écrire du code.
D'accord. Sur les notifications Slack, c'était pas de l'alertine, c'était pas du monitoring, j'imagine, pour dire quelque chose est chaos. C'était quoi? C'était pour signifier des changements d'état?
Si c'est tous les chargements de données, rapport d'erreur à chacun des chargements de données. J'avais même des messages à l'intérieur des Google Spreadsheets, des petites notes, des rapports d'exécution, là où les gens regardent. En fait, j'ai apporté les messages d'évolution du système là où les personnes sont, donc c'est-à-dire dans Spreadsheet et dans Slack, pour leur donner une visibilité. Parce que je leur enlevais, finalement, quand tu prends un travail manuel, les gens, ils ont toutes les informations, toutes les données sous leurs yeux. Et l'idée, là, c'est d'automatiser sans enlever la partie visible. Donc, c'est fiabiliser la partie cachée et faire en sorte qu'on passe de 1 ou 2 vendeurs à 30 sans perdre la visibilité. Deuxième point de repère, je pense le plus important, c'est définir la capacité du système qu'on conçoit. Pour moi, pour à chaque capacité, une architecture. Dès le départ, j'ai dit maximum 30 sellers sur Spreadsheet, 30 vendeurs avec un millier ou 2000 listings. J'irai pas au-delà, même si techniquement c'est faisable. On sent que c'est le Lego, ça va bien pour faire un prototype, mais on va pas passer chez Backmarket. On a plus d'un millier de vendeurs. Je vais pas m'aventurer à construire un système sur la durée. Donc c'est de 2 à 30. Pour avoir effectivement 10 000 produits en ligne sur Shopify, version 1 du système. Et les critères et de sur toute la vie du système, je dis optimisons en dessous de 30 vendeurs. Et quand on aura besoin d'aller au-delà, il va falloir reprendre le système pour le construire sur des parties, reconstruire ces parties-là pour aller de 30 à 300. Et c'est vraiment ce qui nous pilote le plus dans ces étapes-là, c'est la capacité du système. Dire, j'ai pas besoin de 300 sellers là, dès le jour 1, j'ai un an ou deux pour le construire. Donc j'ai fait une étape intermédiaire qui en prend 30. On a atteint cette étape. Là, on est en train de construire la version pour 300 sellers qui tourne beaucoup mieux et beaucoup plus fiable. Un peu moins de visibilité, moins de messages, moins de rapports d'erreur. Donc c'est assez bizarre. On a perdu un tout petit peu sur ces axes-là. Mais on a un système qui doit pour soutenir le plan sur les deux ans à venir.
D'accord, et ça, ces objectifs de capacité, finalement, c'est toi, d'un point de vue tech, qui les a fixés en disant par rapport au choix que j'ai fait, je sais qu'on sera limité. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez co-construit tous ensemble en disant voici la trajectoire au niveau du MVP, qu'est-ce qu'on espère? Parce que de toute manière.
J'ai essayé d'identifier à partir de la stratégie business quelle était l'équivalent de la capacité du système. Donc c'est plus une déduction de, sans qu'on puisse me dire voilà c'est 30 sellers ou c'est 300 clients ou compagnie, c'est moi qui ai décidé que la clé de voûte, un peu le KPI clé de toute l'architecture du système, c'est le nombre de vendeurs qu'on a sur la plateforme. Plus que le nombre d'ordres, de commandes ou de choses comme ça, c'est le nombre de produits en ligne qu'on est capable de mettre à jour, gérer la quantité, gérer les stocks et compagnie. Et du coup là, on est sur une échelle où on passe à x10 et Backmarket est encore x10 ou plus au-dessus. Et le signal, c'est on a ce système sur Shopify qui peut marcher jusqu'à 300 sellers. Si on veut aller plus loin, il faudra rejoindre Backmarket. Donc c'est les grandes étapes de cycle de vie du produit qui nous permettent de dire on fait du build avec ces systèmes là et on en construit avec du buy sur le Shopify, Stripe, Algolia, ça tiendra très bien. Aucune raison, on n'a aucune excuse d'échouer jusqu'à cette taille-là. Si on veut aller plus loin, donc j'essaye de trouver quels vont être un peu les points limites. C'est la vitesse de l'API Shopify. Si je veux updater 10 000 produits une fois par heure, là je sens que je commence à taper la vitesse de l'API, mais ce sera dans un an et demi et ce sera le signal de limite du système. J'ai tapé les limites de l'API Google un petit peu en étant un peu violent parce qu'on avait 5000 lignes, 800 colonnes par fichier sur 30 fichiers. Donc, ça faisait plus d'un million de cellules gérées. Oui, une base de données est 10 fois plus faite pour ça, mais Spreadsheet gère un million de cellules sur 30 fichiers de manière assez surprenante.
Ça, tu le savais en amont ou c'était un peu une découverte? C'était un pari de se dire, bon, on verra si ça tient?
Non, je le savais, pas de manière fiable, mais j'ai vu d'autres personnes le faire. Et ça m'a plutôt dit, ben voilà, on a de quoi faire ce prototype-là, on part sur un truc simple qu'on peut manipuler en temps réel. S'il a fallu le faire en Python ou autre, on l'aurait fait en Python ou autre avec une base de données. Mais là, c'était, je suis parti du point de, c'est vraiment la philosophie comment, c'est on part de là où on est. Si j'avais pas eu un point de départ de fichier spreadsheet qui était déjà utilisé par des personnes pour alimenter le Shopify, j'aurais pas forcément industrialisé ce point-là. Donc c'est partez de là où vous êtes, améliorez pas à pas, plus vraiment la partie architecture pour le coup. Et là j'ai fait des plans d'architecture présentés à l'équipe d'architecture de Backmarket pour expliquer aussi à la sécurité ce qu'on fait, de bien connaître l'architecture. Donc il y a un regard très senior sur un système simple. Et c'est difficile d'éviter de rentrer dans des problématiques trop complexes de je mets une base de données, je mets de la synchronisation, des choses comme ça. Là, on fait des API autour de ça, on publie des API, on essaye de les avoir les plus propres possibles, mais c'est beaucoup de seniorité sur un système qu'on essaye de garder le plus simple possible.
Parce que j'ai l'impression que sur les choix que vous avez faits, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'ai pas l'impression. Est-ce que tu as testé Google Apps Script directement et enfin c'était ton premier choix et ça s'est bien passé? Finalement, il n'y a jamais eu de retour arrière dans les choix.
Toutes les technos pouvaient marcher. Donc là-dessus, c'est de se dire en dessous de 30 sellers, il n'y a pas d'erreur. Toutes les technos vont marcher. Ça aurait été du N8N, du Zapier, du n'importe quoi devait marcher. Il fallait juste avoir une inventivité un peu différente. Là, c'était un vrai confort. C'est de partir sur du code qui était hébergé. J'ai utilisé un module qui s'appelle Clasp pour être dans GitHub, d'avoir toujours le code suivi, l'historique et compagnie, d'avoir un IDE pour l'éditer plus ou moins. Donc d'être dans des standards. Pas beaucoup de tests par rapport à ce que je défends sur tout le podcast, mais on essaye d'avoir les parties critiques testées et on se rapproche. Là, maintenant, c'est le maintenant où il faut écrire plus de tests pour reprendre les parties qui sont un petit peu friables. Mais visibilité, c'est vraiment l'exercice d'un senior qui regarde un petit système, quoi. Ça fait bizarre. Et j'essaye de voir. Donc, je suis accompagné de bons développeurs, Nicolas et Ezio, qui aident et qui se jettent sur des pans du système, pour le reconstruire. Mais du coup, moi, je fais un peu maintenant du pilotage. Je code beaucoup moins. Et je m'assure que chaque partie est bien stable au niveau de la capacité. Donc, c'est vraiment capacity driven, d'essayer d'avoir un système propre, fiable, par couche, bien isolé, le plus ressemblant possible à Backmarket dans les terminologies, fait pour une capacité donnée, quoi.
D'accord. Ce que j'allais te demander après, est-ce que ce projet-là, maintenant que tu as fait le MVP, tu vas passer sur autre chose ou est-ce que tu vas rester
encore? Non, je reste
jusqu'au bout de la du passage aux 300 et quelques plus sellers et ensuite.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, oui, c'est vraiment ça, une mission de 2 ans sur laquelle j'ai vraiment envie de creuser cette partie-là, de voir comment on apporte l'architecture dans un système en évolution perpétuelle avec peu de dev, pas mal d'activités. On fait des choses assez intéressantes d'ouverture d'API pour des gros clients qui veulent passer des commandes beaucoup plus automatiquement. Donc vraiment intégrer ces axes-là pas à pas. Donc pas mal de product management sur les roadmaps, sur comment faire des chantiers un par un, ne pas tout lancer en parallèle. Mais c'est passionnant dans la patience d'approche, quoi. C'est de regarder assez loin un système qui ne doit pas être compliqué. Donc on ne doit pas se retrouver en train de faire des choses trop compliquées, même s'il y en a des petits bouts, et d'avancer sur ces bases-là, quoi.
C'est facile pour une grosse, enfin pour une scale-up maintenant comme Backmarket de retrouver cet esprit startup où tu recommences de zéro, j'imagine, ou justement
il y a extrêmement simple, ouais. Ça a été très surprenant. Donc ça vient pas de moi du tout, mais c'est extrêmement surprenant à quel point la notion d'autonomie et de non-dépendance. Donc c'est vraiment une des clés de l'agilité, c'est l'autonomie des équipes, quoi, la non-dépendance, parce que l'autonomie peut être interprétée de différentes façons, mais c'est ce qui tue l'agilité des projets, c'est quand tu es dépendant d'une autre équipe, d'un autre module, et que pour faire un petit pas, tu es obligé d'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. L'agilité clé, c'est à quel point tu peux avancer sans être freiné par le reste, ok, en étant accéléré par ta plateforme existante. Donc c'est vraiment cette partie-là, l'agilité quelque part à l'échelle, c'est comment tu peux bénéficier du système sans qu'il te ralentisse. Et le point clé pour Back Market for Business, il a été limpide, c'est compter sur personne. Donc le message, c'est OK, Back Market a toutes les solutions que vous voulez, mais touchez à rien, débrouillez-vous sans, faites comme vous voulez, mais aucune équipe sera là pour vous aider. Et c'est très très surprenant, mais c'est smart, dans le sens où ça met une frontière limpide sur ce sur quoi on peut compter. Et si tu veux lancer un business et démontrer qu'un business vit sans être alimenté ou en perfusion sur le système d'à côté, c'est la meilleure façon de faire. Donc c'est le fail fast ou le lancement clé. Donc c'est très frustrant, surprenant au départ, en disant non mais attends.
J'imagine. Tu te sens mis de côté, quoi. Tu te dis ok, personne ne me soutient, quoi. Mais en fait, c'est pas ça, quoi.
Et quelque part, on pas forcément le soutien massif parce qu'on n'est pas la priorité de la boîte. Donc c'est logique qu'on n'ait pas de soutien. C'est logique qu'on soit challengé sur la nécessité de faire. Et en même temps, c'est une graine qu'on plante. Donc cellule autonome et un mindset chez Back Market qu'on appelle le sabotage, qui n'est pas le terminologie qu'on croit, qui est le droit de faire, de tricher, quelque part. On a le droit de faire des prototypes ou des fake it until you make it. J'ai pas le droit de demander quoi que ce soit aux équipes, mais j'ai le droit de me brancher dans l'Algolia, j'ai le droit de me brancher dans des systèmes en discutant un petit peu avec certains, parce qu'il y a de la bienveillance et on me laisse faire, mais je ne demande pas à faire. Donc, la partie vraiment intéressante, c'est de savoir de quoi j'ai vraiment besoin chez Back Market. Donc ça, c'était l'année dernière, débrouillez-vous. Et la phase de cette année, c'est on a identifié les 2-3 points de branchement sur lesquels on a besoin de support, et celui-là, on peut le construire parce qu'on a une démonstration que ça nous permet d'éviter de refaire un catalogue produit complet, de dupliquer complètement un truc. Donc, on vole de la donnée au départ. Puis, ça nous permet de démontrer le besoin, l'importance, la structure, et ça nous permet d'avoir le temps d'expliquer exactement ce qu'on veut faire. Et à partir de là, on peut itérer, quoi. Donc, très surprenant, mais efficace. En tout cas, quelle que soit la solution, c'est la limpidité de la décision qui était importante dans ce cadre-là. C'est de pas dire bah, on verra si vous avez besoin ou pas, au cas par cas, demander, on verra bien. Tu vois, ça t'empêche de prendre des décisions. Si tu sais que t'as pas accès aux équipes, bah, tu vis sans. Si on avait accès aux équipes, on aurait fait des demandes, mais là, je trouve que c'est la clarté de la posture qui était utile.
Ok. Bon, hyper intéressant, ouais. Je m'attendais pas. Enfin, je savais pas trop justement comment t'allais me répondre sur ça, mais j'aime beaucoup l'approche. Ouais. J'aime beaucoup. Et justement, tu crées pas de dépendance. Et ouais, j'aime bien.
Et c'est totalement subi de ma part, parce que c'était pas ma proposition, évidemment. Voilà, ça nécessite une adaptation, un peu un côté humble en disant ils se trompent, mais je vais leur faire confiance, j'avance, et en fait, tu découvres que tu t'adaptes, et c'est vraiment l'idée de c'est un système simple, donc plein de solutions sont possibles, on doit pouvoir s'en sortir, quelle que soit la décision, quoi. Donc, dans tous les cas, on s'adapte et on avance, il n'y a pas de raison d'échouer à ce stade-là d'entreprise. Maintenant, c'est comment faire en sorte qu'on ne grille pas des cartouches pour la suite, est-ce qu'on pourra rejoindre le système plus tard, plus on est à l'extérieur, plus ça sera dur, mais trop tôt, c'était pas bon. Donc voilà, j'ai cette épée de Damoclès en tête, de dire à quel moment on rejoint. Là, pendant 2 ans, non. Tant que j'ai 300 sellers, c'est pas grave, je saurais m'adapter et j'aurais pas construit un système doublon de Back Market, quoi. Donc voilà, la petite histoire, projet Deep Dive.
Merci beaucoup. Ouais. Non, hyper intéressant ce projet. Je te remercie de l'avoir partagé avec nous. Plein de choses hyper intéressantes là-dedans. Donc encore une fois, je te remercie. On va passer à la seconde rubrique où je pense qu'on va reprendre certains concepts. Tu as parlé d'agilité. J'ai envie maintenant d'avoir ta vision et je pense qu'avec toutes les rencontres que tu as dû faire, notamment à travers Techrocks, tu as une vision très riche à nous partager sur qu'est-ce que c'est selon toi être un ou une tech leader. Qu'est-ce que ça signifie en termes de posture, de mission, de rôle? Qu'est-ce qui est le plus important?
Alors, ma proposition aujourd'hui, c'est de ne pas faire une synthèse. Venez à TechRocks, il y a 30 meet-ups par an. Je ne veux pas vous faire une synthèse, je ne suis pas là pour ça. Par contre, j'ai plus un deep dive et un élément clé qui me paraît essentiel et peut-être un petit peu méconnu du tech lead, qui est d'expliquer le cycle de vie du code aux non-tech. Et si je le formule un tout petit peu plus, moi, sur ma vision, c'est l'évangéliste du trunk-based développement. Donc, un bon tech lead, c'est celui qui sait piloter l'équipe pour que la code base évolue au bon rythme. Parce que l'équipe de développement, les développeurs produisent du texte. C'est ce qu'on livre en prod, mais au final, le vrai livrable, c'est le texte qui est écrit par l'équipe. J'ai passé quand même pas mal d'années à réfléchir à comment, à 30, à 40, et là j'essaye de découvrir un peu à 250 chez Backmarket, comment on gère une base de code avec autant de personnes autour d'un seul document qui est le repo GitHub, qui est la source de livraison finalement du code. Après, quand ça va en prod et compagnie, les livrables, les livraisons, c'est plus la structure, mais le tech lead au niveau d'une équipe, il se doit de faire avancer le texte de l'équipe en continu. Ou en tout cas, si l'équipe décide de livrer, de faire avancer ce texte-là. Et à partir de là, le concept de trunk-based, qui est un petit peu le graal de l'évolution en continu du code, c'est le graal du tech lead pour moi, qui doit aider l'équipe à éviter de partir dans des effets tunnels, de s'écarter de la prod trop longtemps. Et c'est un point de vue, c'est pas une solution, c'est le tech lead défend le trunk du code et tout ce qui va arriver dedans. Donc il est au bout de la chaîne et c'est lui qui reçoit et qui est garant de la qualité de ces livrables-là. Donc il peut accepter qu'on le fasse en sprint, il peut accepter qu'on le fasse en release mensuel, mais c'est au final c'est lui qui est garant de ce rythme de livraison du code. Et toutes les questions de roadmap, toutes les questions de fonctionnement, de spec, de cycle de vie du produit, je trouve qu'il est positionné sur la base de code et il regarde tout ce système qui arrive depuis ce point de vue-là et il doit expliquer les conséquences d'avoir des projets waterfall, d'avoir des fonctionnalités qui sont dépendantes les unes des autres ou l'optimum d'arriver à avoir le mode Kanban où chaque tâche est le plus autonome possible, elle est livrée quand elle est prête. Donc tous ces phénomènes-là, je trouve que le tech lead se doit de maîtriser vraiment toutes ces discussions-là.
Alors est-ce qu'on a quelle technique on a comme ça, je comprends vraiment l'idée de base et je te rejoins sur l'état d'esprit. En pratique, comment est-ce qu'on peut s'assurer justement qu'on pilote bien en trunk-based? Comment est-ce qu'on peut éviter les dépendances?
Alors c'est là où ça devient du soft skill, donc c'est le comportement du tech lead et une sorte de gestion d'un système de production. Dire voilà, ma prod c'est le code et quels sont les incidents, quels sont les problèmes, quels sont les bloqueurs, quels sont tous les sujets qui m'empêchent de livrer du code, qui empêchent l'équipe de livrer du code de façon simple. Donc j'ai envie de recommander de le prendre comme ça sur des incidents une équipe a des conflits de merge, c'est une sorte d'incident sur la base de code. Comment on résout ça, comment on évite que ça revienne. Donc c'est vraiment s'occuper de toute cette partie ergonomie de livraison du code. Donc j'imagine que ça vous intéresse un petit peu aussi.
Tout à fait.
Et donc il y a la qualité du code, ça c'est le sujet sur lequel vous êtes, mais pour moi c'est vraiment la livraison même du code. C'est à quel point c'est facile de livrer du code et tout son cycle de vie, quoi. Donc ça, c'est un parti pris assez fort, hein, de discuter de ça comme un axe, une compétence quelque part du tech lead, de maîtriser ça. Parce que si l'équipe ne maîtrise pas, il doit leur enseigner. Si on se retrouve avec trop de choses démarrées en parallèle, trop de PR en parallèle, trop de chantiers, pas assez de tests, des incidents qui reviennent plus tard, tout ça prend sa racine dans comment je valide du code, que le code est bon. Donc vraiment, c'est le gatekeeper du commit. Responsabilité maximum, le tech lead, c'est quel code part sur la branche de code.
De ton point de vue, les incidents de merge, la root cause principale, qu'est-ce que c'est? C'est un problème de dépendance, justement, de deux tâches qui sont faites en parallèle, ou s'il y a d'autres choses?
Alors là-dessus, j'ai pas une expérience récente, mais chez les Furets, on a fait un énorme travail de feature branching en continu où toutes les features étaient faites sur des branches séparées pour justement garantir l'indépendance des tâches et de pouvoir livrer quand elles étaient prêtes. Donc j'ai pas mal parlé sur le sujet, mais au final, les conflits de merge, c'était soit du code qui était au même endroit par accident, donc aucune raison, et ça s'évite. Donc la recommandation, c'est éviter plutôt que de résoudre le conflit, parce que la résolution d'un conflit de merge, c'est une fusion de la date de livraison du code. Donc c'est on structure, on fige la dépendance quelque part. Donc autant éviter cette partie-là. Et après, oui, c'est justement la dépendance. Et si vous avez besoin, s'il y a du conflit de merge, c'est soit un manque de flexibilité d'une partie du code qui doit être plus des plugins ou des choses comme ça. Donc là, c'est un peu de la théorie de comptoir, mais faut regarder. Donc c'est vraiment l'inspection de la root cause. Il n'y a pas de solution complète. Et moi, ce que je dis, c'est regarder pourquoi il y a le conflit de merge plutôt que de suroutiller la facilité des conflits. Donc éviter les conflits pour que ce soit de plus en plus fluide. Essayer de comprendre pourquoi les conflits ont bloqué, quoi.
D'accord. Et alors, cette interdépendance des tâches, si je comprends bien dans l'esprit Kanban, tu t'assures que quand tu as une équipe avec 10 devs, s'il y a 10 devs qui ont une tâche en cours, par exemple, parce qu'on travaille tous sur une tâche, toi, le travail des tech leads, c'est de s'assurer, enfin même de toute l'équipe en amont, c'est s'assurer qu'il n'y a pas le travail de quelqu'un qui va dépendre du fait que l'autre en parallèle doit avoir terminé ça parce qu'il a fait une modif ou un truc comme
J'ai
ça.
J'ai pas quoi. De règles à donner là-dessus. Si 10 devs ont une tâche chacun, ça sent très mauvais, mais j'ai pas mon mot à dire. C'est-à-dire qu'ils bossent pas beaucoup ensemble, ils s'entraident pas, et qu'on fait tout en parallèle.
Oui, ça sent que je me disais, il n'y a pas beaucoup de.
Mais ça peut très bien marcher, il n'y a pas de règle. Tu vois, l'optimum, c'est à 10 sur la même tâche en mob programming. Ça, c'est la théorie te dit, foutez-vous à 10 sur une tâche, elle ira le plus vite au monde, et chaque tâche ira très vite. Et si vraiment il y a quelqu'un qui a rien à faire, on peut commencer à réfléchir à en faire une autre. Mais un petit peu le summum du Kanban, c'est le One Piece Flow, c'est une tâche après l'autre, et chaque tâche, tout le monde est disponible. Dès qu'il y a un blocage, il y a quelqu'un qui est là pour le régler, et c'est la vitesse ultime. À partir de là, tu peux te dire, là, c'est un peu du gâchis, messieurs, mais ça t'empêche pas de dire quelle est la tâche la plus prioritaire. Donc dans les 10, tu as envie de dire, c'est laquelle la plus prioritaire? Donc quel est l'ordre de priorité dans ces 10 tâches-là? Et si quelqu'un a un problème, il a le droit d'interrompre n'importe qui en dessous pour avoir de l'aide. Donc des choses comme ça, pour dire, voilà, comment je garantis qu'il y a au moins la première va le plus vite possible. Et encore, la question de vitesse, là, c'est plus pour une question d'économie, mais c'est...
C'est éviter les blocages en fait dans le flow de livraison.
Voilà, c'est ça. C'est comprendre les blocages sujet par sujet et pas dire je suis bloqué là-dessus, je vais faire autre chose. C'est vraiment cette partie. Quelle est l'importance de tout le système pour le tech lead? C'est que la code base avance. Donc pour moi, la mesure de la performance ultime du tech lead, c'est la vitesse à laquelle le code de prod évolue. S'il évolue une fois par semaine par big batch, on peut se poser des questions, mais c'est peut-être très bien. Est-ce qu'il y a des incidents et des choses comme ça? Donc c'est vraiment, moi j'ai envie de regarder le code avancer sur le trunk. Peu importe comment c'est fait, comment ça arrive là-dessus, c'est comment le trunk avance et quand il y a des surprises. Donc c'est vraiment surprise-driven développement. C'est, vous avez une surprise? Parlez-en. C'est un incident d'organisation. Et on regarde comment gérer cette
D'accord.
partie-là.
Un merge, typiquement, qui se passe, enfin, un conflit sur un fichier dans un merge où on ne comprend pas trop. Ouais. Là, c'est un incident, on essaie de comprendre tous ensemble pourquoi
ça vient. C'est ça. Et au moins, le tech lead doit se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça me concerne. Donc, il peut dire je m'en fiche, ils se débrouillent, ils sont grands, mais ça reste sa responsabilité. Il ne peut pas refuser, dans mon sens, la responsabilité de la qualité du code qui sort. Le PO, le PM, c'est pas sa responsabilité. La partie infra, les releases et compagnie, c'est pas sa responsabilité. Donc c'est vraiment le lien entre le code écrit et on parlera d'une autre partie de comment il est écrit, mais c'est vraiment le code écrit, c'est la mesure du pour moi le tech lead, il doit s'assurer que le code qui est écrit en prod est du mieux possible.
Tout en ayant après une code base qui vit au quotidien, qui s'avance, voilà. C'est sa responsabilité. Voilà.
Oui, mais c'est sa responsabilité en fait. Donc c'est voilà, personne d'autre n'ira regarder cette partie-là. Et pourtant, c'est le cœur du système. Donc, il n'y a pas d'autre. C'est pour ça que je trouve que vous êtes bien placé d'aider à fournir un outillage pour le tech lead, pour justement l'éclairer, parce que c'est au moment où il écrit, où on est, entre le moment où on fait un code completion, où on écrit le code, et au moment où on le commit, que tout le rôle du tech lead se passe, en fait. C'est un accompagnement à l'écriture du code, quoi.
Ok, très clair. C'est intéressant. Finalement, c'est vrai que j'aime bien cette approche que tu dis sur les tech leads. Je vais faire focus sur un truc plutôt qu'une synthèse, parce que finalement, bon, les synthèses, comme tu dis, on peut en trouver. Donc, j'aime bien avoir cette vision très précise. La GenAI, effectivement, comme tu as dit, troisième et dernière rubrique de ce podcast. Tu t'en sers aujourd'hui de l'IA générative dans le dev? Première question.
Alors, je développe moins. Je m'en suis servi un petit peu. Et j'ai plutôt et c'est utilisé par les développeurs de l'équipe. Mais l'idée, c'est que ça doit pas être une solution, mais plus une aide invisible. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen que ça passe dans le cortex inconscient du développeur, comme des aides. C'est de l'assistance au développement qui doit être le plus invisible possible. Donc ça nécessite aux gens qui construisent les outils de se concentrer énormément sur les gestes que font les développeurs et à quel point ça va impacter leurs gestes. Parce que moi, quand je l'utilise et qu'il faut que je me mets à écrire un commentaire ou un nom de fonction d'une autre façon qu'avant pour que l'IA m'aide mieux, ben, j'ai changé mon geste, j'ai changé la façon dont j'explique mon intention. Donc, on est passé de « j'écris du code tel que je l'ai en mémoire ou tel que j'aime l'écrire » à « j'explique à une machine comment l'écrire la bonne partie sans qu'elle se trompe » et compagnie. Donc, il y a quand même un changement d'attitude. J'ai vraiment envie de... Alors, je travaille peu là-dessus, mais d'observer un développeur coder avec et sans. Et le avec, c'est pas la bonne solution actuelle, parce qu'on est tous en train de chercher comment bien utiliser ces outils-là. Moi, je me souviens d'il y a 15 ans, l'arrivée de IntelliJ IDEA sur le refactoring du code. C'était juste d'un autre niveau. Donc, il y avait toujours des gens qui utilisaient Emacs et qui se débrouillaient très, très bien. Mais le refactoring a été une époque assez incroyable dans la facilité de modifier, de ranger, de nettoyer du code. Le TDD, on l'utilise à fond, et si tu n'as pas une compétence assez forte dans ton IDE pour faire du refactoring, bah, tu vas l'utiliser un peu moins. Donc c'est d'enlever des barrières de choses qui n'étaient pas totalement indispensables si tu faisais bien tout du premier coup. Mais là, c'est comment corriger un existant. Donc là-dessus, ouais, c'est... se dire qu'on ne sait pas encore quelle est la bonne utilisation de tout ça, que ça doit aider à changer les gestes des développeurs pour écrire du code. Donc encore une fois, là, pour le coup, le tech lead doit se pencher sur la question, parce que les gestes des développeurs changent. Et j'aime beaucoup les questions comme « doit-on laisser GitHub Copilot aux entretiens d'embauche ou pas ?» Et la réponse évidente est « oui ». Parce que je vois pas pourquoi on ne projetterait pas le candidat par rapport à sa maîtrise des outils les plus avancés et comment il utilise sa connaissance là-dessus, quoi. Donc très très bizarre la période là. Elle est, on sent une révolution complète de la façon de décrire le code, le concevoir. Je pense que ça reste l'ingénierie et de la réflexion, des schémas d'archi, des choses comme ça. Et encore, ça peut aller, mais je dirais que ça peut aller jusque là. Mais déjà, on devrait passer moins de temps à produire le code, donc la partie CAPEX, run, qui est « je sais ce que je veux faire, maintenant j'essaye de le faire », cette partie-là doit s'accélérer. Et donc du coup, c'est peut-être beaucoup plus regarder à séparer le temps de réflexion du temps d'action, qui avant était complètement mélangé, quoi. Moi, c'est récent, je me dis « tiens, ah oui, effectivement, il y a une partie, parce que quand je code, je réfléchis en même temps, et là, si on m'enlève le code, j'ai plus de temps pour réfléchir. Le temps où je codais, ça me permettait de réfléchir. Là, il faut que j'ai des cycles de différents. » J'en ai pas fait énormément, donc là-dessus, c'est vraiment un peu l'appréhension, mais c'est vraiment tâche par tâche. Donc c'est vraiment action par action. On peut commencer par ça et après ça se reconsolidera. Mais je commencerai à regarder beaucoup plus comment le développeur utilise l'outil et comment l'outil, justement, il a des surprises, ça marche pas comme il veut, ou il a des bonnes ou des mauvaises surprises, et c'est là où on peut regarder, quoi.
Ouais, quand généralement on commence à avoir du code qui contient des bugs, on commence On interagit toujours, mais je m'en ai plus vigilant. On commence à questionner le truc, à essayer de comprendre à quel point il a raison.
Oui, ouais. Alors là-dessus, j'ai pas assez d'expérience, mais c'est une conviction, disons, et puis alors j'en ai fait un petit peu, mais c'est de regarder par tâche. En fait, c'est vraiment la notion de tâche plus que d'activité ou de solution ou quel est le résultat final. C'est quelle est la tâche, l'action, le geste, j'ai envie de dire, du développeur qu'on est en train de faciliter le plus petit possible, quoi.
D'accord. Et par rapport à ce que tu disais au début, que faire attention que l'IA, ce sera peut-être pas une réponse à tout. Est-ce que tu penses que tous les gestes des devs vont pas réussir à les aider, ou peut-être qu'il y en a, c'est un challenge compliqué?
Là, moi, je suis prêt à être surpris. En fait, c'est à force de s'occuper de chacun des gestes, on arrivera à embrasser l'ensemble. Donc, oui, c'est l'impression que il faut qu'on, on peut faire des schémas d'architecture. Et c'est peut-être à la fin, tu fais un schéma d'architecture et tout le code qui va avec, il en découle parce que après, tu sais ce qu'il y a à faire. Donc, c'est la plus dure, c'est de décider ce qu'il faut faire. Parce que par rapport à ton besoin, c'est apporter les hypothèses du problème à résoudre. Donc non, j'ai aucune conviction là-dessus. Je suis plutôt prêt à être surpris de manière assez dingue, mais tâche par tâche. C'est vraiment le prendre dans le sens inverse. En fait, c'est si on prend tâche par tâche et qu'il y a des tâches qui résistent ou il y a des tâches, c'est pas l'IA qui peut aider ou des choses comme ça, bah, on verra. Mais tâche par tâche, on part de l'existant encore. Je suis peut-être un peu monomaniaque là-dessus, mais je pars de l'existant, on prend ce qu'on a peut-être qu'on rate des sauts quantiques dans la façon de coder complètement un système, mais je suis prêt à accepter de rater ce saut-là pour l'instant et d'accompagner les devs et de voir ce qui reste comme tâche de dev, quoi.
Ouais, justement, c'est la dernière question que j'avais. Est-ce que tu penses que de se concentrer, d'analyser peut-être plus que jamais les gestes des devs, parce qu'on a envie de mettre de l'IA tellement partout qu'on regarde en profondeur ce que fait le dev, est-ce que ça va finalement peut-être nous permettre de recentrer ou de faire mieux apparaître qu'est-ce que c'est finalement être dev? Est-ce que ça va peut-être mettre plus en lumière le métier? Est-ce que comment tu vois les choses par rapport à la vision de ce que c'est d'être un dev ou
alors,
une dev?
Pour moi, le dev était déjà un maître du métier, donc nécessité de connaître vraiment le métier sur lequel il s'applique pour éviter des erreurs bêtes. Donc c'est la maîtrise du métier, elle reste la maîtrise de la conception. Pour l'instant, je dirais que l'IA reste un générateur de code, donc c'est un accélérateur, mais il remplace pas. Il part dans le sens où tu le lances. Donc, il n'a pas en autonomie, il n'a pas une autonomie de gestion de la base de code. Quand il voit des bugs ou du ralentissement, il faut quand même, pour l'instant, de l'alimenter. Après, on verra quand il commencera à avoir des systèmes autonomes. Mais c'est la partie autonome, c'est encore autre chose. Là, ce qu'on a, la rupture technologique, c'est la génération de code à base d'un prompt. Donc c'est vraiment ce qui a changé, c'est au lieu d'écrire du code, j'écris un prompt et je lui explique et qui sait faire une tâche. Donc c'est un prompt remplace une tâche et j'alimente un prompt plutôt que d'écrire tout le code qui va avec. Donc c'est des générateurs de code sur stéroïdes et de se dire déjà ça c'est énorme. Avant d'avoir d'autres parties de systèmes autonomes, on n'a pas de, alors peut-être je ne connais pas assez, mais on n'a pas de révolution dans la conception de systèmes autonomes. On a une révolution dans la génération de texte. Donc, il se trouve que les développeurs ont une très très grosse productivité de dealing par jour. Donc, peut-être que là-dessus, ça peut aider. En produisant plus de code prolixe, on fera plus de lignes. Plus de code verbeux, pardon, ça fera plus de lignes, ça fera pas mieux en fonctionnalité, donc on ne sait pas comment mesurer, mais on sent là qu'il y a il y a quelque chose qui bouge quand même très très fortement et qui, je pense, au niveau des tech leads, maîtriser au moins cette problématique au niveau de leur équipe est un indispensable, quoi, et de se laisser surprendre. Je pense que d'avoir des convictions là-dessus est un petit peu difficile à l'époque.
Ouais, tout à fait. Surtout que c'est quand même des sujets qui évoluent tellement vite qu'on est surpris régulièrement par toutes les nouveautés. Ouais. Bah super, en tout cas, Dimitri, je te remercie d'avoir partagé ton feedback sur ce sujet de la Gen AI. On arrive en fin de ce podcast. Je te propose de nous partager quelques recommandations de lecture ou d'écoute. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer?
Alors, j'ai quatre points. c'est la conférence TechRocks et les podcasts TechRocks. Toutes les vidéos Flocon, on pourra mettre le lien qu'on fait depuis des années sur tous ces sujets-là. Donc c'est, on dépense beaucoup d'argent en tant qu'association à produire du contenu pour qu'il soit effectivement regardé et écouté. Donc là-dessus, sur tous ces concepts-là, il y a beaucoup. J'ai mon mono-livre unique qui drive tout ça, qui s'appelle « Product Development Flow » de Don Reinertsen. Donc ça, j'en ai parlé pas mal, mais c'est vraiment la compréhension de la tâche unitaire, donc le terme atomique pour une tâche autonome qui va vite. Là-dessus, il y a un livre d'une clarté dingue, un peu complexe à lire, mais voilà, pour comprendre comment on construit un système de façon incrémentale, tous les impacts, la mesure du coût, du délai et tout ça. Product Development Flow est une bible. Je peux rien, je suis tombé dedans. Mais ça a changé ma carrière pour toute cette approche-là, en fait. C'est pourquoi Kanban marche, pourquoi Scrum, en faisant des plus petites itérations, marche. Ça explique le pourquoi. Pas le comment, mais le pourquoi. Des petites tâches, c'est indéniable. Des petites tâches rapides qui livrent un peu de valeur valent 10 fois mieux qu'une grosse tâche qui prend beaucoup de temps et qui empêche de faire toutes les petites en attendant. Donc c'est le coût du délai. La priorisation par le coût du délai, par exemple, c'est un concept qui est bien creusé dans le livre, très surprenant, contre-intuitif, mais qui soulage les neurones quand on veut faire comprendre pourquoi le continuous delivery marche. Et je voudrais finir par suite à la discussion là sur la Gen AI, qui est le How to Measure Anything, qui est un livre qui a aussi changé un peu ma vie et compréhension. C'est Douglas Hubbard. On pourra mettre le lien. Et qui est le plus simplement possible de dire tout est mesurable. Et ça, c'est assez bizarre comme formulation. Mais son propos, c'est de dire derrière une mesure se cache une prise de décision, en fait. On cherche à mesurer pour décider. Et du coup, il faut comprendre qu'est-ce qu'on cherche à décider. Donc sur la mesure du nombre de codes, là, on parlait tout à l'heure du nombre de lignes de code d'un développeur. Est-ce que je mesure ça? J'ai changé totalement d'approche sur ces questions-là quand je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt réfléchir à quelle est la décision qu'on cherche à prendre en fonction de cette mesure. Si c'est 10, si c'est 5, si c'est 20, quelle est ma réaction? Quelle est la décision que je cherche à prendre? Et là, tout à l'heure, j'ai fait un peu en live, je me suis dit, en fait, si c'est 20 ou si c'est 5, j'ai rien à décider parce que je sais pas. Donc, c'est pas la mesure qui m'intéresse. Donc, je suis en train de mesurer un truc, je sais même pas pourquoi. Donc, c'est pourquoi vous mesurez ça, quelle est la décision et qu'est-ce qui vous permet de prendre cette décision plus tôt. Donc, le bouquin est incroyable là-dessus, sur la notion de mesure. Et l'IA, là, nous pousse à mesurer les choses différemment. Et du coup, la question que je pose, c'est quelle décision cherchez-vous à prendre en mettant ou non en place de l'IA?
Ok, intéressant. On mettra effectivement tous les liens dans la description du podcast. Personnellement, je m'intéresserai à Product Development Flow. Tu m'as donné envie de le lire. On arrive à la fin de ce podcast, Dimitri. J'espère que tu as passé un moment agréable en ma compagnie. Je te remercie encore à nouveau pour avoir participé. Je pense que si les gens veulent te suivre, tu es assez visible. Les gens te connaissent déjà beaucoup, je pense.
Il n'y a qu'une seule façon de participer, c'est de venir à Flocon le 6 et 7 mars.
Exactement. Voilà. Dans quelques jours, voilà. N'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir participé à ce second podcast de Tech Lead Corner. Et puis, je te souhaite bonne continuation, bon courage pour la suite, notamment pour le projet BM4 Business.
Merci.
Je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés.